Je me rappelle cette nuit d'orage, entouré de mon père et de ma mère, en exil dès mon jeune âge. J'ai préparé mes affaires pour mon premier voyage, m'exiler au-delà des mers. Je revois d'ici mon village et tous ceux qui me sont très chers. Pour moi, ce paysage est le préféré de la terre. L'Algérie, mon beau pays, je t'aimerai jusqu'à la mort. Loin de toi, moi je vieillis, rien n'empêche que je t'adore. Avec tes sites ensoleillés, tes montagnes et tes décors, jamais je ne t'oublierai, quel que soit mon triste sort. Seul je me parle à moi-même. J'ai failli à mon devoir. J'ai mené une vie de bohème et vécu dans le cauchemar. Quand je chante ce poème, je retrouve tout mon espoir. L'Algérie, mon beau pays, je t'aimerai jusqu'à la mort. Loin de toi, moi je vieillis, rien n'empêche que je t'adore. Avec tes sites ensoleillés, tes montagnes et tes décors, jamais je ne t'oublierai, quel que soit mon triste.
Alors voilà, on est lundi 18 juin, il est 20h, je suis avec Nadir Dedoune.
Dandoune,
excuse-moi.
Non, je t'en prie.
C'est pour Enquête de cinéma, une émission sur autour du cinéma sur Radio Galère. Donc il fait beau. Pendant qu'on va faire la discussion, Nadir va aussi regarder le match de foot.
Je te confiance.
Voilà, il va aussi regarder le match de foot qui ce soir, c'est Tunisie-Angleterre, parce que c'est un grand fanat de foot. Moi
pas
aussi.
Trop, mais
non, mais
comme ça.
Oh, un petit peu quand même. J'ai un peu regardé. Moi, j'aime beaucoup le foot aussi, d'ailleurs, qui est une pratique très populaire, on peut dire, à la différence du cinéma. Quand même.
Exactement.
Bon, alors moi, j'ai vu ton film et par quoi je pourrais commencer? Si, la première question que j'aurais envie de te poser, c'est que moi, j'ai trouvé qu'il y avait des plans de cinéma qui étaient magnifiques, des cadres, des lumières. Et ce qui m'intrigue, c'est que d'après ce que je sais, c'est que c'est ton premier film en tant que cadreur,
en fait,
réalisateur.
Non, alors j'ai déjà réalisé deux documentaires.
T'as déjà réalisé deux documentaires
sur la Palestine.
D'accord.
Mais qui ont été des petits films, qui ont été un sur un voyage en Palestine et un autre sur un traitement médiatique de l'affaire Salah Amouri. Donc Salah Amouri, c'est un avocat franco-palestinien
qui est encore
en prison, que je connais très très bien. Je connais très bien sa femme aussi. Je suis même allé à son mariage à Salah. Donc je connais
quand même en prison personne, en Israël.
Voilà. Pour juste... c'est un prisonnier politique. Il faut quand même dire les choses.
C'est un Depuis 7-8 mois, je crois que c'est à peu près ça.
Depuis le 23 août 2017, avant ça, il avait déjà été emprisonné entre 2005 et 2011.
D'accord. Oui, donc c'est pas tout à fait ton premier film, mais quand même,
c'est le premier film de cinéma, on va dire.
Oui, voilà. Mais c'est ça qui m'a agréablement... J'ai trouvé ça puissant, c'est que t'as pas fait d'école de cinéma.
Non.
T'as pas fait non plus... T'as fait deux objets un peu documentaires.
Ouais.
Et là, comment t'es amené à faire ces cadres qui sont pour moi très cinématographiques, où on voit ta maman de dos sur le balcon avec derrière toutes ces grandes tours.
Ce que moi je pense, je pense que j'ai filmé par amour.
Ouais, voilà.
Comme ma mère, je l'aime, hein, c'est ma mère. Et peut-être que c'est ça qui m'a, je sais pas, motivé ou qui m'a fait faire des cadres.
Poétique, je
pense que si j'avais filmé quelqu'un d'autre, je pense pas que ça aurait donné le même résultat. Enfin, c'est en fait ce que je pense, peut-être que je me trompe. Pour être honnête, j'ai filmé à l'instinct quand même, un peu.
Ouais. Oui, il n'y avait rien d'écrit avant.
À l'instinct, non, rien écrit. Et c'est en fait ça aussi qui aussi fout peut-être les boules à quelques cinéastes, que j'emmerde profondément quand même. Ça leur fout les boules, parce que comme tu l'as dit si bien, j'ai pas fait d'école, moi. J'ai pas fait la FEMIS ou toutes ces écoles qui sont quand même réservées à une certaine élite en plus.
Oui,
moi, j'ai pas fait ça. Donc, moi, je suis hors élite en plus. Ouais. En plus, moi, vraiment, l'élite, je peux pas l'avoir.
Ouais.
Donc, c'est ça qui me fait marrer. C'est pour ça que je suis allé gravir la plus haute montagne du monde aussi. C'était pour aller là où les gens ne m'attendent pas, quoi.
Aller foutre
le bordel dans cette élite bourgeoise que vraiment je peux pas saquer. Quoi.
Ouais, voilà, ouais, d'accord.
Moi, je suis clairement anti-bourgeois. Je suis en fait pas là pour plaire aux gens et tout ça.
Ouais.
Et je savais pas que tu travaillais à Radio Galère. C'est quand même une radio que j'aime bien, je connais bien, que je connais de nom en plus, je la connais super bien.
Ouais.
Parce que j'avais une amie qui bossait avant.
D'accord.
Radio Galère.
Ouais.
Elle s'appelait Fanny, je sais pas si tu connais.
Non, je connais pas.
Mais c'était super longtemps. Vous êtes beaucoup.
Ouais, on est beaucoup.
Elle bossait là-bas, voilà.
C'est pour ça que c'est beaucoup. Radio Galère, qui est une chouette radio, une radio libre.
Et une radio qui est bien à gauche. Quoi.
Ouais,
une radio
très politique,
très militante.
Voilà. Ouais.
Donc on en a besoin.
Ouais, on en a besoin.
Parce que c'est rare.
À notre époque. Ouais, c'est rare et c'est nécessaire. Donc d'accord, ok. Mais je trouve que c'est une très belle réponse, là, ce que tu dis, parce que tu as filmé avec amour. Et c'est une belle réponse et c'est rassurant, parce qu'au moins, ceux qui veulent faire des choses,
à l'instinct, faut le faire.
Voilà, l'instinct, par l'amour, mais des fois il y a la haine. Tu dis aussi souvent que la haine est un de tes moteurs de création.
Ouais, aussi. Ouais, en fait, c'est vrai que.
Ça oscille entre amour et haine.
Ouais, voilà, c'est ça. C'est que c'est vrai que. Bon, on est dans des sociétés qui sont vachement aseptisées, où t'as pas le droit d'être en colère.
Ouais.
J'ai fait un débat là. Aux variétés, ça s'est pas super bien passé, où on me reprochait en fait gros d'être en colère, quoi.
Et là,
c'est vrai que ce qui est marrant, c'est que ça a été l'un des plus mauvais débats qu'on a eu, alors que normalement ça se passe plutôt bien. Tu vas ce soir, je suis sûr que ça va bien se passer.
À
l'Alhambra à Marseille, c'était exceptionnel, c'était un bon débat.
Ouais,
c'était juste quand en fait ça part mal parfois. Là, il y en a une qui me reprocher un peu d'être en colère, parce que bon, c'est vrai qu'il y a des gens en France qui regrettent l'époque bénie où les homos, les noirs, les arabes et les femmes, en fait, ils avaient juste le droit de fermer leur gueule, quoi.
Ouais.
Et là, maintenant, le fait qu'on dise ce qu'on pense, qu'on ouvre notre gueule, forcément, ça les bouscule un peu dans leurs idées, quoi.
Ils
disent
sécurité,
et dans leur privilège surtout, pas que tu les bouges de leur privilège.
Oui,
ça leur fout un peu les boules, et c'est ça qui est drôle. Alors que pour moi, pour revenir à ce que tu disais, pour moi la haine, ça a été un moteur de plein de choses. Hein. J'aurais pas gravi l'Everest sans aucune expérience si j'avais pas une haine dans moi. Quoi. Moi, je voulais venger mes parents. Quoi.
Ouais.
C'était Annie Ernaux, qui est une écrivaine française, qui disait qu'elle écrivait pour venger sa race de femme et sa race de prolo. Moi, c'est pareil. Si moi je fais des films aussi j'écris, c'est pas pour plaire à l'élite, hein, c'est pour venger les miens.
Ouais, d'accord.
Et moi j'ai aucune honte avec ça. Hein. Ouais, après on peut dire que c'est un discours extrémiste radical, ils peuvent se le rentrer quoi, s'ils veulent. Quoi. Moi il n'y a pas de problème, c'est des trucs que j'assume, il n'y a pas de souci. Hein. Pour moi il n'y a que les lois de la République et le reste c'est de la liberté d'expression.
Voilà.
Et là je ne pense pas avoir franchi... les lignes de la liberté d'expression. Si ouais. Non, ça va
non,
pour l'instant.
Non, non,
pour
bah, moi,
tout va bien alors.
Dans tout point, ça va. Et le match, ça va pour moi. Il y a quoi alors?
Il y a un toujours.
Un toujours. Bon, pour revenir au film, moi, il y a une question que j'avais envie de me poser, de poser, c'est qu'à un moment de faire ce film, donc c'est un geste d'amour. Vers ta mère, et c'est ce qui t'amène à le faire. Et la question, c'est qu'il y a aussi derrière ça quelque chose où tu reconnectes avec une histoire que tu connais moins. Est-ce qu'il y a quelque chose de ça derrière? Parce que ça parle beaucoup de... Elle parle kabyle. Mmh. Toi, tu lui parles en français.
Ouais.
Ça parle beaucoup de la question aussi de l'exil.
Ouais.
On sent... Je sais pas si c'est dans le film ou si c'est après que toi, tu as peu été... Tu connais peu la région de là-bas.
Non, en fait, j'y suis allé quand j'étais gamin.
Voilà.
Donc voilà, j'y suis allé quelques fois et tout ça. Mais c'est vrai que je connais mieux la France, hein, puisque c'est mon pays, la France. Je suis né ici. C'est pour ça qu'on a inventé le droit du sol, parce qu'on avait compris qu'on pouvait être français et basané, français et noir, français tout ce que tu veux. Mais c'est une région que je connais un peu mieux maintenant, parce qu'avec l'âge, j'y vais maintenant. Et puis là, maintenant, comme j'ai le permis, je peux louer une voiture et je peux aller là-bas.
Ouais.
Mais c'est vrai que c'est une... Faire ce film aussi, c'était de... Il y a des choses que j'ai découvert à travers
oui, voilà,
ce
donc...
film aussi, quoi.
Oui,
il y a,
ouais.
Ben oui, il y a des choses, parce que ma mère, elle s'est un peu plus livrée. Mm-hmm. Mais en même temps, j'ai aussi fait ce film pour les autres. Hein. Je n'ai pas fait ce film que pour nous, quoi. Parce que je savais que l'histoire de ma mère, elle allait parler à plein de gens, quoi. Et qu'il y a plein de gens ouais. qui allaient pouvoir s'identifier. Et comme ma mère, elle fait partie de ces gens qui ont été invisibles toute leur vie, à qui on ouais. a rarement donné la parole.
Ouais.
On a donné la parole des fois à des... papa, mais c'était toujours par le prisme du travail, mais que très rarement.
Ouais, de l'usine, en
voilà.
couvrier.
Ouais, ouais, il y avait que des bras et de la sueur, quoi.
Voilà, ouais, ouais.
Alors qu'il y a autre chose, quoi.
Ouais, ouais. Oui, là, c'était aussi pour remettre ce pan de l'histoire marginalisé ou même invisibilisé.
Invisibilisé, exactement.
Dis, ouais. Mm. Donc oui, donc tu avais à la fois une dimension d'amour et une dimension poétique, et puis il y avait aussi une grande dimension politique, quoi.
Et collective.
Ouais, c'est-à-dire
collective.
De mémoire collective.
Mémoire collective.
D'accord.
Moi, je suis pas historien, je suis pas sociologue, mais je pense qu'en faisant ce film, il y a un travail d'historien et un travail de sociologue qui a été fait aussi, quoi. Je veux dire, c'est que dans 20 ans ou 30 ans, ben, ceux qui savaient pas
pourront
y savoir avec ça.
Ouais.
Et c'est pour ça que c'est important toutes ces œuvres. Et ce qui est pour moi le plus important aussi, c'est de se réapproprier sa propre histoire.
Ouais.
Et de pas laisser les autres le faire à ta place. Quoi.
Ouais, ouais.
On a trop laissé, nous les habitants des quartiers populaires, on a trop laissé les autres parler
écrire
à notre place.
Écrire votre
ouais.
histoire.
Les,
ouais, ouais.
Tu vois, voilà, tu vois, l'élite qui aime bien nous voilà, voler nos propres histoires et qui en font des films souvent merdiques à base de caricature,
cliché,
quoi.
Ouais.
Cliché et caricature.
Oui, parce que je me souviens que tu avais écrit une critique assez intéressante sur un film qui avait fait un tabac.
Divine.
Où on disait que
c'était une grosse merde.
Voilà, et pourtant on revendiquait le fait que c'était quelqu'un des quartiers qui filmait.
Ouais,
donc
que ça le pire, c'est que ça comme valide tous les
voilà.
clichés. Non, sauf qu'il quand même paraît que c'est un film qui a été. Je crois que c'est un film qui a été co-réalisé, donc je crois qu'elle l'a réalisé quand même avec un petit bourgeois de Paris, je crois que c'est.
Oui,
donc ça ne m'étonne pas.
Le scénariste.
Ou scénariste, ouais.
Ça en fait, ce sens.
Non, ce qui est quand même drôle avec ce film, c'est un film qui n'a pas marché dans les quartiers populaires. Et aucun moment, elle se remet en question.
Elle n'a pas marché.
Elle est toute fière. C'est un film qui a marché dans les milieux. Dans les milieux riches, quoi, les bourgeois, tous les bourgeois, ils ont dit c'est magnifique, ce film est un Scarface féminin, oh c'est magistral.
Ouais.
Il va falloir que c'est une grosse daube ce film.
Ouais.
Faut être honnête, c'est une grosse daube.
Oui, je suis d'accord.
C'est une grosse daube.
Ça,
hein.
ça renforce
c'est une
les
grosse
clichés,
daube.
Les représentations.
Sauf que non, ce qui était marrant, c'est que pendant 30 ans, ils t'ont fait des films sur les mecs qui étaient violents. Maintenant, ils t'ont fait Bande de filles et ça.
Ouais, qui est le même genre.
Divine,
qui
est la même chose. Et là, tu verras que dans 2-3 ans, ils vont nous faire des films sur les parents démissionnaires. C'est toujours de la faute des pauvres.
Ouais, ouais.
C'est jamais de la faute des riches. C'est jamais de la faute des actionnaires. C'est jamais
ouais.
de la faute.
Ouais.
Si les mômes traînent dehors, c'est de la faute des parents, bien
ouais.
sûr.
Ouais, ouais,
parce
ouais.
que quand t'es né dans un quartier populaire ou dans un petit village et tout ça... C'est la même chose que quand tu es né à Neuilly-sur-Seine avec des parents médecins. Avec des... C'est pareil, c'est la même chose. Les classes sociales, elles n'existent plus, bien
oui,
sûr.
Oui,
bien sûr, elles n'existent
oui.
plus.
Non, non.
C'est ça, la grosse arnaque. Et elle, avec son film, elle valide tous les clichés.
Ouais.
C'est la petite bouffonne, quoi.
Oui,
et donc, elle était toute fière avec son prix, là. Après, s'il faut qu'on arrive là pour y arriver, parce que c'est ça le souci aussi. Ça, c'est un message qu'on envoie aux habitants des quartiers populaires pour en fait y arriver. Faut que tu sois invendu.
Faut que tu te renies, quoi.
Faut que tu sois invendu. Après, elle, peut-être que c'est ce qu'elle voulait faire aussi. Hein, après. Ouais. Après, moi, je sais pas, moi, c'est une fille que je connais pas. Ouais. Mais, donc, c'est pas une attaque personnelle. Ça fait juste qu'elle a fait un film de merde. Pour moi, après c'est juste mon analyse. Il y a beaucoup de gens qui ont dit que c'était un film bien. Ouais. Tant mieux. Après, donc, on a le droit d'avoir deux avis. Moi, la seule chose que je sais, c'est que son film n'a pas marché dans les quartier populaire, et ça m'interroge.
Ouais. Oui, ça
tu as fait un film qui a pour décor les quartiers populaires, qui est censé parler des quartiers populaires, ouais. Et qui fait un bide.
Ouais,
ouais. Ça m'interroge.
Ouais, ouais, ça pose des questions.
Moi, c'est l'inverse. Ouais. Ouais. Tu vois, mes livres marchent dans les quartiers populaires. Ouais. Mes livres sont lus par les habitants des quartiers populaires.
Ouais. Ouais.
Mes films, ils sont vus par les quartiers populaires.
Pourquoi, à ton avis, c'est...
Parce que moi, je mets peut-être un peu plus de nuances, et puis moi, peut-être que je suis libre aussi. C'est aussi lié au fait que je fais les choses avec liberté. Et puis, donc, peut-être qu'aussi, moi, peut-être que je me laisse pas faire aussi. Quoi.
Ouais,
je suis pas prêt à tout pour y arriver aussi. Quoi.
Puis tu sais de quoi tu parles aussi. Il y a peut-être ça à un moment aussi.
Ouais, aussi. Ouais, c'est vrai que moi, je vis toujours en banlieue. Moi, je vis toujours en banlieue parisienne. Moi, donc, je vis pas dans le centre de Paris. Je vis dans la même ville où j'ai grandi. Donc, je suis pas déconnecté de la réalité. Et puis, moi, peut-être par rapport à d'autres là. C'est peut-être que eux, leur rêve, c'est d'être reconnus par l'élite, quoi.
Voilà, ouais.
Parisienne, ouais. Avoir des prix par l'Assemblée nationale. Moi, non. Moi, c'est... Ouais. Voilà, ce que moi, j'aime avec le film sur ma maman, c'est que ça fait venir des gens qui n'ont jamais mis les pieds au cinéma. Ça fait venir des darons.
Ouais.
Ça fait venir... Et puis, ça crée du bonheur. Tu as bien vu quand les gens sortent du cinéma, ils sont heureux. Ouais, c'est beau, c'est magnifique.
Quand tu sors
d'aller voir le film Divine, tu te dis...
Oh, ouais, tu te dis le monde est... Ouais, tu te
c'est horrible. C'est la même vision toujours. Apocalyptique.
La drogue, la délinquance,
l'islamisme.
Ouais.
Tain, franchement, ils peuvent pas nous lâcher avec ça un peu. Ils peuvent pas raconter des belles histoires aussi.
Non, ils veulent pas parce que c'est trop le beau libère trop. Hein. C'est dangereux le beau.
Ouais, le beau libère trop. Ça fait bien quand tu restes que dans ta merde.
Bah oui, tu n'étais pas dangereux pour les autres. Mais est-ce que toi, tu avais des films qui t'ont marqué? Toi dans ton histoire.
Moi, ouais. Les films de Louis de Funès, les films de Bourville, les films de Fernandel, les films de Jean Gabin qui parlaient des gens modestes, j'adorais.
D'accord. En comédie, alors village. En plus.
Ouais, ou aussi les films avec Jean-Paul Belmondo.
D'accord.
Les films qui parlaient de gens modestes quand même. Parce que là, avant, il y en avait.
Ouais.
Là, maintenant, on a François Ozon,
Guillaume
Canet. C'est quand même des films qui parlent que des bourgeois. C'est des films qui parlent de Jean-Marc qui a trompé Marie, qui a ensuite trompé Francine, mais Francine elle s'est remis avec Jean-Marc parce que Jean-Pierre il en avait marre aussi.
Ouais.
Donc tu vois, qu'est-ce qu'on en a foutu de leurs histoires de bourgeois là, qu'est-ce qu'on en a foutu.
Ouais, ouais.
Il n'y a plus de films sur les prolos, il y en a très très peu, il y en a encore quelques-uns, mais il y en a très peu. Les paysans, il y en a très peu, sur les gens modestes, quoi. 70% des gens qui vivent en France c'est des gens modestes, c'est pas des bourgeois, il faut aussi qu'ils arrêtent.
90% des gens qui vivent dans le monde sont
des pauvres en plus, c'est des pauvres, c'est des prolos, c'est des modestes, des agriculteurs, c'est des paysans. Et ça, en fait, on n'en parle plus.
Non.
Il y a quand même une élite cinématographique, et c'est pareil dans les livres. Hein.
Ouais.
Le nombre de livres que je lis avec les trucs de bourgeois, là, j'en peux plus. Franchement, j'en peux plus. Quoi.
Ouais, ouais.
J'en peux plus. Et c'est pour ça que j'aime bien Annie Arnaud, c'est pour ça que j'aime bien Virginie Despentes aussi.
Ouais.
Je trouve que c'est pas mal. Ouais. J'aime bien aussi les livres d'Albert Cohen. Et ce qui est marrant, c'est qu'on ne me demande jamais à moi, alors qu'il a quand même écrit 4 bouquins. Et qui a fait 3 docus et qui a co-scénarisé un film. On me demande jamais de c'est quoi. Mais t'as été le premier à me demander quels sont mes goûts cinématographiques.
Ouais.
On me demande jamais moi quels sont mes goûts cinématographiques. On me demande jamais quels sont mes goûts littéraires. On en fait veut juste savoir. C'est un mec de banlieue qui est parti gravir l'Everest. Oh mon Dieu.
Oui. C'est-à-dire qu'on t'enferme, on veut t'enfermer dans ton histoire et t'enlever la liberté que tu t'octroies, quoi.
Ouais.
Ouais.
Connaissance. Tu sais que les gens lisent même pas mes livres.
Hein. Ouais. Ah ouais.
Alors que c'est des livres qui marchent pourtant.
Hein. Ouais.
Ils ne sont jamais mis en avant, les livres, alors que c'est des livres qui parlent à plein
de gens. On veut te repiéger, quoi.
Non, c'est pas ça, c'est que ce qui leur intéresse à mes confrères journalistes, c'est que ça, quoi.
Ouais, ce qui va faire vendre.
Que l'arabe qui de banlieue, qui est parti faire l'Everest, mes couilles, tout ça, quoi.
Ouais.
Bon, donc, c'est pour ça que je ne leur réponds plus.
T'as raison. Alors, ça, c'était référent. Et est-ce que. Alors, continuons sur tes référents. Donc, là, tu m'as cité des auteurs français. Est-ce que d'autres auteurs.
Ah oui, il y a aussi un mec que j'adore, Romain Gary aussi.
Ouais.
Quand même, ça, c'est quand même le grade au-dessus. Et sinon, j'aime bien les auteurs américains aussi, je trouve.
Ouais.
Parce que je trouve qu'ils ont une liberté de ton quand ils écrivent. C'est super. Après, pour les films, j'aime bien les films belges, canadiens, argentins aussi, je trouve qu'ils font des films.
Les films burlesques.
Non. Enfin, j'aime bien les films australiens aussi, je trouve qu'ils sont pas mal.
D'accord. Ouais, parce que t'as canadien, vécu
belge,
en Australie.
Vécu en Australie, le film suisse. Je t'avoue que j'ai du mal avec les films français un peu, à part de quelques exceptions.
Ouais.
C'est quand même le niveau, c'est quand même les mêmes acteurs. Cadmera,
qu'on se passe de Fabien.
Catherine Deneuve.
C'est
un peu les mêmes, quoi.
C'est fou. Donc, alors, ce qui fait que tu fais des films, tu écris des livres.
Comme ça, de temps en temps.
Tu étais aussi journaliste.
Tu
pratiques la boxe.
Des montagnes aussi. Ouais, je fais de la boxe anglaise aussi.
Qu'est-ce que t'aimes dans la boxe?
Alors, moi, j'ai fait de la boxe française, du kick et de la boxe thaï, mais je préfère la boxe anglaise. Parce que t'as pas les pieds pour te défendre et c'est je trouve que c'est vachement plus complet. Faut que tu bouges et faut que tu boxes avec ta tête en fait.
Ouais.
Y a des gens qui pensent que tu boxes qu'avec les poings, mais tu vois, c'est avec ta tête.
On appelle ça le noblard.
Et en plus le noblard, si on l'appelle comme ça, c'est pour ça. Et puis moi ça m'apaise. Et puis ce que j'aime, je suis dans un club où en plus il y a des gens de partout qui viennent, il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a vraiment toutes les générations. C'est bon, c'est super bon esprit.
Ouais.
C'est un sport des pauvres aussi.
Ouais,
c'est pour ça que j'aime bien.
C'est une pratique très populaire.
Ça fait pas comme c'est pas comme le tennis ou le golf ou comme moi quand j'ai fait de la haute montagne, c'était aussi pour aller chez les riches.
Ouais.
Mais c'est vrai que c'est un sport que j'aime bien. Et puis
pourquoi
et puis,
c'est un sport qui a ce côté populaire comme le foot selon toi?
Parce que c'est déjà des sports qui coûtent pas cher.
Ouais.
La licence, elle est à 150€ par an, quoi.
Ouais.
C'est pas comme le tennis où c'est 1000€ ou 1500€, quoi, déjà, ça. Et puis, se prendre des coups, c'est les néophytes riches, quand ils sont petits, les mecs, ils se battent pas dans la cour d'école. Hein.
Non.
Après, donc, on va dire que je dis des trucs sur les riches, mais quand t'es riche, quand t'es bourgeois. Pardon, mais quand t'es dans la cour d'école, tu te mets pas des droites et des coups de pompe. Hein. Nous, quand on était petits, on se mettait des droites et des coups de pompe.
Oui, puis comme tu dis, t'as une sorte de morale de la violence, où faut pas faire mal, faut pas être en colère, faut pas dire des méchants mots.
Exactement.
Moi,
ce que en plus j'aime avec la basque, c'est que je trouve que c'est moins violent que le football, par exemple.
Ouais.
Parce que je trouve que c'est pas traite. La boxe.
Oui.
Bon, tu vois, on a des protections, on a des casques et tout ça, quoi.
Oui, puis t'as une honnêteté de la lutte, quoi.
Voilà, exactement. C'est que le mec sait qu'il est là pour te mettre des coups.
Voilà.
Donc il fait pas de traite.
Une fois que le combat est fini, on est.
Ça, plus. Et puis là, on est potes après. Et puis moi, ce que j'aime, c'est qu'il y a beaucoup de cordes à sauter avant.
Ouais.
T'as des abdos, t'as du sac et tout ça.
Voilà.
Il y a aussi toute cette préparation physique, moi, qui me plaît. Moi, je trouve ça super.
Ben oui, c'est clair. Ouais. Mais c'est, tu vois, par exemple, le film que tu as fait avec ta maman, je pense que c'est un film, là, des gens... moi, je suis dans un club de boxe, là, à Port-de-Bouc, et quand je vois tous les gens, ils seraient ravis de voir ce film. Sauf que il n'y a pas la pratique... on ne leur a jamais offert cette pratique culturelle de venir dans une salle, de payer et d'entrer pour eux. C'est...
Ils pensent que c'est pas pour eux.
Ah bah non, ils se disent que c'est pas pour eux. Et pourtant, là, tu vas juste on sort du cinéma, on va à gauche, t'as un bar, ils ont tous eu cette maman.
Ouais, c'est marrant.
Et si c'était pas cette maman, c'est leur grand-maman, quoi.
Ouais, c'est vrai que c'est ça qui est difficile, c'est qu'on a du mal. Alors, avec ce film, non, ça va quand même. Avec ce film, on arrive à faire venir des gens qui mettent pas les pieds au cinéma, encore ça va. Mais c'est vrai qu'en règle générale, le cinéma ou même lire des livres et tout ça, t'as des gens qui s'auto-censurent, c'est triste. C'est en fait aussi, comme tu dis, c'est parce qu'ils pensent que c'est pas pour eux.
Ouais.
Mais c'est aussi parce que ce qu'on montre à la télé aussi, c'est que des écrivains avec des vestes en velours, qui font des longues phrases, qui parlent bien. Ouais. Moi, je suis pas présenté comme un écrivain. Moi, je vais être présenté comme un exemple, entre guillemets, alors que c'est un mot qui veut rien dire du tout, en plus.
Ben oui.
C'est pour ça que c'est ça le souci,
Et ça rend les choses très compliquées, quoi. Mais alors, ce film-là, tu disais que tu vas aller le projeter en Algérie ?
Ouais, pour
ça, ça va être une sacrée expérience,
ouais.
Ça. Hein.
En octobre à Alger et à Constantine, et peut-être en septembre en Kabylie.
À Béjaïa.
Ouais, Béjaïa.
Alors, si là, tu vas à Béjaïa, il faut que tu ailles faire les ciné-clubs autour de Béjaïa.
Ah oui, c'est pareil,
parce,
y en a.
Parce qu'à Béjaïa, je pense que ça sera peut-être dans le cadre des rencontres cinématographiques. Voilà.
C'est ça.
Donc,
tu as
les rencontres cinématographiques, qui est vraiment un endroit magnifique, ouais. Mais tu as tous les petits ciné-clubs des montagnes autour, qui sont les petits villages,
ah ouais,
qui font des ciné-clubs autour, et
ah,
là,
c'est magnifique.
Génial. Ah ouais, c'est
ouais,
magnifique. Parce que, bon, t'es fatigué, là, Nadir. Hein.
Grave.
Hein,
ouais, mais là, c'est notre dernière séance... De notre tournée du Sud.
Ouais,
on a fait Apt, Cucuron, Manosque, Variété, l'Alhambra,
ouais.
Port de Bouc. Et demain, je pars à Paris et ensuite, je vais à Angers. Donc là, on est
d'accord.
Le 18 juin
ouais,
aujourd'hui,
ouais.
comme je sais pas quand l'émission. Et après, là, jusqu'à la fin juin, j'ai encore une dizaine de dates. Quoi.
Et ouais, t'accompagnes tout.
Je suis fatigué.
Ouais, voilà. Et ta maman, elle devait pas venir là au
non.
début et finalement...
En fait, ouais. Après, moi, je me suis dit, je vais la nous faire venir. Donc elle est arrivée à Marseille là, il y a 3-4 jours. Comme ça, ça, elle a pu profiter. En plus, c'est bien, c'est que ça la. Je trouve que ça. En plus, ça la. En fait, je trouve que ça la valorise, surtout.
Ouais.
Ça valorise et elle aime bien, en plus.
Ouais,
pas trop, là, elle s'est reposée toute la journée, quand même.
D'accord.
Puis là, elle va venir dire 2-3 mots. Tu vois, là, elle parle avec les gens.
Ouais.
Elle aime bien, elle est cool. Ouais, elle aime bien parler avec les gens.
Bon, revenons au film, là, quand même.
Ouais,
hein.
Ouais, vas-y.
Alors, moi, ce que je voulais savoir, c'est au film, comment ça a été pour toi l'expérience du montage ? Parce que c'est toujours une expérience assez intense. On a fait des images. Et
ben là, on a eu de la chance. C'est que le montage, en fait, il s'est fait simplement parce que. On a eu de la chance parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'heures de rush. En fait, il y avait 8 à 10 heures de rush.
Ah ouais.
Donc, il y a les choix qui sont faits assez facilement.
Assez facilement,
ouais. Donc, on
n'a
pas eu beaucoup de. Honnêtement, moi,
okay.
C'était facile.
Il n'y a pas eu, pas eu d'hésitation.
Non, c'était facile.
D'accord. Ok. Alors, moi, dans le film, il y a un seul truc que j'ai moins aimé.
Ouais.
Voilà. C'est le moment où il y a toute la famille.
Ah bon ? Mais
ouais.
ça, c'est en fait parce que tu n'es pas d'origine maghrébine, c'est pour ça.
Peut-être. Mais
c'est
moi,
pour ça que
je raisonne.
Tu n'as pas compris la scène.
Peut-être je ne l'ai pas compris, mais moi, je raisonnais du point de vue de. C'est clair que je n'ai pas cette culture-là. Mais moi, ce que j'avais aimé, c'était que. C'était cette voir. Que ta mère, parce
ouais.
que je trouvais qu'elle parlait de la famille et que moi, ça me donnait l'imaginaire de l'imaginer comme je voulais. Quoi. Tu vois, ça me laissait de la place à l'imaginaire.
Ouais.
C'est surtout à cet endroit-là que je dis que j'ai la seule critique que j'aurais à faire.
Alors,
mon point de vue.
Ouais, je t'en prie. Non, mais c'est vrai, c'est un truc que je peux comprendre. Alors, moi, je l'ai mise aussi. J'ai été partagé entre la mettre et pas la mettre. Je l'ai mise, c'était pour montrer. Qu'elle est au service de ses enfants, quoi.
Ouais.
Tout le temps, même quand ses enfants ils lui demandent de s'asseoir. En fait, elle veut pas s'asseoir. Et puis aussi, tu vois, c'est pour lui montrer que même quand il y a ses enfants qui viennent, elle reste seule. Parce que une fois que les enfants sont partis, t'as quand même cette pièce qui est vide. Donc,
ouais,
je sais pas si tu te rappelles.
Oui,
donc voilà,
si
c'était pour montrer ça. C'était bon.
D'accentuer aussi la question de comment elle se met au service
des autres. Voilà.
Et comment aussi, à un moment, elle se retrouve seule.
Voilà.
Parce que ça accentue la question de
la solitude. Et puis là, après, on a mis ça, c'était pour parler de l'autre scène qui arrive après. Quand ma mère, elle est en train de moudre le café, où là, elle dit. Moi, si moi, c'est ça. Moi, il y a des jours, j'ai juste pas envie de rentrer chez moi le soir.
Oui,
tu vois, c'était pour montrer la solitude.
Oui, qui est un peu le moment le plus. Qui est un peu dur, quoi.
Voilà,
moment,
qui est dur.
Même,
voilà.
Parce que
c'était pour ça que.
D'accord.
Mais bon, c'est une critique que je peux entendre, que t'as raison.
Oui, j'avais envie de.
Mais moi aussi, je voulais la mettre aussi pour voir ce que ça allait faire chez les gens. Parce que ça quand même peut être un peu violent de voir ça.
Ah bah moi, je trouve qu'il y a des moments dans le film où il y a une violence sentimentale.
Voilà.
Il y a des moments où c'est très dur.
C'était pour ça.
Ouais, bah, à cet endroit-là, ça marche.
Voilà.
Parce que dans le film, ta maman est chaque fois rayonnante de vie.
Ouais.
Et c'est vrai que c'est important que t'aies mis ça pour montrer aussi le
côté, c'est dur.
Qu'elle est fragile.
Pas parce qu'elle a la patate et que ça va, qu'à l'intérieur, ça va pas. Mais c'est le cas de tout le monde, hein,
oui,
en vérité.
Oui, mais c'est pour ça que ça reste, c'est super important, parce que c'est un film où ça te parle. Sensiblement.
Voilà.
Tu dis, bah oui, on est des humains,
voilà.
On a la patate,
pour ça.
Des fois la vie est dure,
c'est
des fois,
voilà. Oui, c'était pour ça. Moi, vraiment, ma mère, je voulais la montrer dans toute sa nuance, quoi.
Ouais.
Pas montrer juste une partie d'elle qui allait tout en bien. Puisque, donc, j'aurais pu lui demander de mettre une belle robe, j'aurais pu lui demander de ne pas faire le ménage, de mentir, quoi.
Ouais, ouais.
Il y en a d'autres qui font ça. Il y a des gens, quand ils font des films, des fois, donc ils mentent. Ils lavent l'appart avant, ils mettent une belle robe à leur maman, et tout ça. Bon, ouais, si tu veux, quoi.
Ouais.
Mais quand tu fais du doc, c'est un peu pour que tu racontes la vie, non ?
Ouais, ouais, ouais.
Tu racontes fait. Ce que... Moi, je voulais juste montrer ce que ma mère, elle vit à son âge.
Ouais.
80 piges, comment elle vit sa vie, quoi.
Ouais, voilà. Ouais.
Comment ça vient rythmer, et je pense l'avoir... fait quoi.
Oui, oui, voilà. Je pense que tu l'as fait. En tout cas, moi, comme j'ai vécu cette expérience, je trouve que c'est très beau comment tu l'as fait, quoi. Parce que c'est. Ouais, même moi qui rien à voir avec cette histoire d'une certaine manière, je me suis. Ça m'a raconté plein de choses, quoi.
Bah, oui.
Je dirais pas identifié, mais ça m'a. Moi, je parle pas d'identification parce que c'est peut-être ça. Parce que je trouve ça. C'est à double tranchant la question d'identification. Mm. Tu vois, tu peux t'identifier à un super-héros dans les films,
voilà.
De la super-production.
Ouais.
Moi, c'est pas ça pour moi que j'ai vécu dans ton film. C'est surtout j'ai vécu des émotions et de l'imaginaire.
D'accord.
Le fait que qu'il n'y ait que ta maman. Ben, j'ai imaginé plein de choses sur sa vie, sur les rapports avec son mari, avec tous ses enfants,
exactement.
Sur son voyage à Kabylie, sur ce qu'elle vit dans le quartier. J'ai imaginé le marché qu'elle allait,
c'est ça.
Les amis. Ça,
c'est marrant, c'est que j'ai un pote qui aussi fait des films et qui m'a dit la chose que j'avais le mieux réussi, c'était ça.
Ah ouais, ouais, ça,
c'est donc c'était en fait c'était réussir à ce qu'on sorte de l'appart sans en sortir, quoi.
Voilà, et ça c'est super ici. Puis l'autre côté que je trouve qui est réussi, c'est la question des émotions. C'est que t'as une c'est sincère comment tu lui parles. Tu t'en fais pas trop, mais t'en fais suffisamment. C'est léger, des fois c'est rigolo,
des fois on se fend la poire.
Voilà, des fois on se fend la poire, des fois c'est un peu dur aussi, et tout ça c'est réussi, quoi. Ce qui fait que tu vis beaucoup de choses quand tu vois ce film, quoi. Donc la maman qui se promène à ranger un petit peu. Bon, voilà, là on a dit est fatigué, on a fait une petite demi-heure, c'est déjà pas mal. Et puis on va à la fin, je vais enregistrer le débat pour finir l'émission.
Avec grand plaisir.
Ça te va? Puis il va continuer à regarder le match de foot. Il y a toujours.
Voilà, en fait, là je vais aller chercher ma veste.
En Angleterre. Et il va chercher sa veste.
Il caille le soir.
Ouais, il caille. Bon, à tout à l'heure.
Merci à toi. Merci à toi, Frangin.
Ciao.
Vas-y, Frangin.
زير تمديت يلهان سفقاد ذي الجرنان ذي الأفريك مشهور يسميس الزير تمذيت يلهان سفقاد ذي الجرنان دي الأفريك مشهور يسميس ذي الساسيس يزيد غفمان.
Donc voilà, on va aller assister au débat du film Des filles en avril de Nadir.
Il y a beaucoup d'histoires. On a aussi le grand bonheur d'avoir Messaïna Landoun qui est avec nous ce soir. Et la distributrice du film, Sandy Flock. Merci beaucoup. Voilà, nous allons partager autour de ce film. Mais c'est à vous, Dallas.
Oui.
Je ne sais pas si vous voulez venir nous rejoindre.
Non, mais c'est une star, donc elle prend son temps.
C'est clair.
Se lève pour faire une ovation à la maman de Nadir. Voilà. Et on va écouter le débat. Voir ce que que ça donne par rapport à ce que Nadir nous disait tout à l'heure quand on a discuté. Bon, il était fatigué, faut l'excuser. Voilà, ça commence.
Voilà, le micro est ouvert, on va pouvoir discuter ensemble avec, avec Saouda et Nadir. Est-ce que peut-être dire un mot d'introduction sur la réalisation de ce film, toujours question basique pour commencer, pour lancer. Du coup, ce désir d'avoir fait ce film sur Saouda.
C'est un peu par hasard, c'était pas prévu. C'est ça qui est. C'est ça qui est quand même génial, c'est que ce n'était pas du tout prévu. Ce film, il est né un peu, donc il est né quelques mois après que mon papa il a été placé dans un EHPAD. J'ai senti que ma mère elle avait besoin de parler, peut-être plus qu'un an. Donc je parlais de ça avec une amie monteuse et elle m'a dit bah, pourquoi tu ne la filmerais pas, comme j'ai écrit des livres sur mes parents, sur ma famille, tout ça. Et c'est vrai que je n'avais pas pensé du tout à ça, alors que ça paraît tellement évident en plus quand même. Hein. Et des gens à qui on a rarement donné la parole, quasiment jamais, quoi. On a fait des films sur les immigrations, mais ça a été des films portés par des hommes, et souvent par le prisme du travail. Enfin, on avait l'impression qu'il n'y avait que de la sueur et que des muscles, quoi. Enfin, c'était une manière de nous déshumaniser, de faire croire qu'il n'y avait que ça comme histoire, que derrière, il n'y avait pas des mamans, il n'y avait pas des enfants, il n'y avait pas des amours, il n'y avait pas de... Voilà, enfin, il y avait tout, quoi. Et donc, j'ai sorti ma caméra, une vieille caméra que j'avais chez moi, une caméra à cassette avec laquelle on ne fait jamais de film, en plus. Vraiment, c'était tout cet esprit-là. Je me suis dit, voilà... Mais au début, c'était un film de famille, hein. C'était un film de, peut-être de 20 minutes ou 30 minutes. J'ai pas eu beaucoup d'heures de rush, j'ai dû en avoir 8 heures ou 10 heures maximum, quoi. Et un an après, je suis parti voir ma pote monteuse et je lui ai ramené des choses que j'avais filmées. Et donc, elle a commencé à monter, mais juste comme ça, en disant qu'on ne savait pas ce qu'on allait en faire. En fait. Et après, donc, au bout de quelques temps, on a vu qu'il y avait un film, il y avait une vraie histoire. Moi, je n'avais pas du tout écrit le film. Je ne voulais pas tomber dans les mêmes travers, écrire un film, la faire jouer, tout ça. Moi, je voulais juste que ça soit... On parle d'elle, quoi, la rendre visible, elle qui a été comme plein de mamans, quelqu'un d'invisible. Et donc au bout d'un an, donc on a monté, et après on a présenté le film à Toulouse, au Festival Origine Contrôlée. Et là-bas, on a vu qu'il y avait un vrai engouement, on a vu que les gens ils étaient super conquis, tout ça. Et après de là, à passer et faire un film en salle, il a fallu que je dépasse mon complexe de pauvre et me dire que j'avais droit, moi aussi, de sortir un film en salle, quoi. J'étais persuadé, comme beaucoup, beaucoup de gens, qu'écrire, c'était pour les riches, que faire des films, c'était pour les bourgeois, c'était pour les riches, que c'était pas pour les habitants des quartiers populaires, que voilà, c'était pas pour nous, quoi, c'était pas notre truc. Quand tu regardes la télé, ceux qui font des films, ceux qui écrivent des livres, c'est des bourgeois, c'est des mecs avec des vestes en velours, donc... Moi, je ne me disais pas que j'avais le droit de le faire. Quoi. Donc, il a fallu que je dépasse ce complexe de pauvre et de me dire, même si je fais une entrée, déjà d'entendre parler Kabyle au cinéma, pour moi, c'est assez exceptionnel, tu vois, sur un grand écran, quoi, pas sur un petit écran. Quoi. Donc, même si je faisais une entrée, c'était pas grave. Et puis, j'ai eu la chance de croiser pendant cette phase Sandrine, Jean-Jacques et tout ça, qui m'ont donné confiance. Je me suis dit, bah allez. Je vais y aller, et puis là on en est presque à 10 000.
Ce qui est énorme.
C'est énorme pour un documentaire de 1 heure sur une dame, un huis clos et tout ça. Quoi. Voilà, c'est un peu une belle histoire qui, je l'espère, va donner encore plus confiance, hein, aux gens. J'en parlais tout à l'heure dehors avec je sais plus qui. Je disais ce qui m'a aussi motivé, moi, c'est que j'en ai ras-le-cul que ce soit les autres qui racontent nos histoires à nos places. Quoi. Toujours les bourgeois qui font des films sur nous, quoi. Et puis quand eux, ils le font, en plus, c'est souvent de la même manière, quoi. Caricatural, souvent... Les quelques films qui ont été faits sur les quartiers populaires, ça fait 30 ans que c'est la même... C'est le même blabla, quoi. La drogue, la délinquance, les films comme Divine, Chouf... C'est bon, la drogue et la délinquance, on sait. On sait qu'on est des sauvages, c'est bon, on le sait. C'est bon, ok, d'accord. Et je sais pas, il y a peut-être un autre truc aussi derrière, non? Donc si on peut faire d'autres films et tout ça, qui marchent en plus, Si ça peut donner l'envie, ben, c'est tant mieux. C'est que du bénéfice.
Le micro est à vous. Hop. Il est très sensible, hein, faut prendre le recul.
Bon, tout à fait, bonsoir. Bonsoir, c'est bon? Bonsoir. Là, c'est bon?
Là, c'est super.
Donc, bonsoir. Et merci pour ce film. Et c'est poignant. Donc, en regardant ce film, moi, personnellement, comme beaucoup d'autres, je suppose, je pense à ma mère. Je vois votre mère, je vois la mienne. À la Félisfeuge, je suis natif de l'Estac. Mon père est venu dans les années, fin d'année 40, et je suis natif de l'Estac. Et ma voisine s'appelait Pemboul. Donc, tout ça pour vous dire que la maman, là, Messaouda, il est prêt, ne pas savoir lire, ne pas savoir écrire, mais qui est d'une intelligence naturelle, sans savoir lire et écrire. C'est-à-dire, l'intelligence naturelle, chez nous, c'est nous expliquer et nous apprendre ce qui est bien et ce qui est mal. Voilà. Et c'était une leçon qu'on avait au quotidien. Et je vais vous raconter un truc concernant ma mère, qu'elle repose en paix, elle ne savait ni lire ni écrire. C'est elle qui s'occupait des démarches administratives. C'est-à-dire qu'elle avait un sachet vert réservé pour les démarches à la sécurité sociale. Un sachet bleu qui était destiné pour les démarches auprès de la CAF. Et d'une autre couleur pour les impôts. Elle y allait, elle gérait tout ça, et elle revenait. Et après, bon, c'était toute cette philosophie-là que vous avez mis sur écran, la conception de la vie, de la politesse et du respect qu'elle transmettait comme ça, de par sa façon d'être. C'est ce qu'on a reçu en pleine figure. Voilà. Et pour ça, je vous félicite. Et une fois, je voulais juste préciser une chose. Ce qui nous a choqué, c'est que quand elle a reçu la famille, à manger, c'est qu'elle a été seule à servir, à desservir et à faire la vaisselle. Alors là, ça m'a choqué, ça. Ben là, attention, je ne veux pas mettre la zizanie. Hein.
Alors, qui ici, dans la salle, ici présente, arrive à faire asseoir sa mère? Qui? Levez la main. Ah, il n'y a que toi. Je ne sais pas si vous ne voyez pas la scène juste d'avant où ma sœur demande à ma mère de s'asseoir. Donc nous, on a abandonné, et en plus le pire, c'est que ma mère, elle arrive à un âge où ça lui fait plaisir. Et si tu lui enlèves ça, tu vois, il lui reste quoi? Son plaisir, c'est de faire plaisir à ses enfants, aux gens qu'elle aime. Tu vois? Aux gens qu'elle aime. Et c'est vrai que ça, nous, on l'a compris. Donc juste avant que mes sœurs, elles arrivent, il y a quand même ma sœur qui lui dit, assieds-toi, mais elle ne peut pas s'asseoir. Donc ils ont été comme ça, donc qu'est-ce que tu veux? Là, tu peux rien faire. Et je suis sûr que ta maman, c'était la même chose.
Bien pour pas, je me rends sérieux.
Non, merci. Tu veux dire quelque chose? Elle a dit, mais pour ceux qui ne parlent pas de Kabyle, elle a dit que quand tu commences un travail, il faut que tu ailles au bout du travail.
Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Moi, personnellement, vous m'avez fait voyager. Vous avez fait un film magnifique qui raconte l'histoire, une partie de l'histoire de sa maman et de son papa et ses frères et sœurs avec beaucoup de pudeur. Personnellement, j'ai eu l'impression d'être chez moi, avec ma maman. Et j'ai l'impression que cette communauté kabyle, ça a été un copier-coller. Que on est tous nés de la même racine et qu'on a tous eu la même éducation, aussi bien au niveau culinaire qu'au niveau respect des anciens, respect des valeurs. Et ce qui m'ennuie un petit peu, parce que moi je suis l'ancienne génération, moi j'ai 52 ans, c'est qu'aujourd'hui, après nous, qui va pouvoir retransmettre aujourd'hui notre vécu, ce que nous on a eu la chance de vivre par l'éducation de nos parents. Et franchement, ce que vous avez fait, c'est quelque chose de vraiment très magnifique. Et j'aimerais bien pouvoir le garder en moi, pouvoir garder ce film et le montrer, parce que là j'ai la chance d'avoir une seule de mes filles avec moi, et le montrer également à mes autres filles, et également le montrer à mes frères et sœurs qui n'ont pas eu cette chance de pouvoir le voir.
Alors le film repasse en juillet.
Voilà, donc il faut revenir au cinéma. Alors moi, personnellement, j'aime bien que les gens aillent au cinéma. C'est pas la même image, c'est pas le même son, c'est pas la même ambiance. Et je trouve que c'est super important parce que les habitants des quartiers populaires vont très peu au cinéma. Ils y vont moins au cinéma que les autres. Et ça, faut pas se valoriser. Ils y vont pas au théâtre, ils vont pas au musée. Et il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Donc, aller au cinéma, moi, je trouve que c'est déjà sortir de chez soi, sortir de son quartier. Il faut y aller, il faut y aller. Et puis, plus vous venez ici, plus ce cinéma, quand même, je trouve que Manu fait du bon boulot, donc il faut les soutenir, ces cinémas. Donc, venez avec vos familles, et peut-être que dans quelques temps, il y aura peut-être un déjeuner, mais c'est en fait...
Pour la petite histoire, moi, bon, je suis kabyle, c'est ma fille qui a fait toutes les démarches pour emmener son père voir ce film. Elle a vu le reportage à la télé. Elle a vu le reportage à la télé et elle a regardé sur Paris, parce que bon, toute ma famille est originaire de Paris, on est d'Argenteuil, et moi j'ai immigré, dans le sud de la France. C'est une autre façon d'immigrer, un peu plus facile que celle de mes parents. Et alors, elle a cherché partout, sur Marseille c'était complet, et puis un soir elle m'appelle, elle a fait « Ouais, papa, c'est bon, j'ai trouvé Bouc Bel Air ». Alors je dis « Allez, zou, on part à Bouc Bel Air ». Mais encore une fois, merci pour tout.
C'est vous qui te remercie. Alors en fait, on a fait une super grosse soirée chez toi, là-haut. Je crois qu'il y avait 352 personnes à Argenteuil. C'était aussi immense là-bas.
Il est très sensible, c'est ça. En fait, moi, je voulais juste vous remercier. Parce que c'était magnifique, tout simplement. Et je voulais aussi prendre des nouvelles.
Donc, juste en seconde, il y a eu ma mère, elle a dit, mais c'était bordel dans la cuisine, elle a dit.
Oui, ça c'est.
Que je vois pas, quand elle parle dans sa bouche.
Non, c'est vrai, c'était le bordel dans la cuisine. Mais c'est pas grave. Ça, c'est ce qu'on a aussi en commun, les uns et les autres. Le bordel dans la cuisine, quand on a une famille généreuse. Je voulais prendre des nouvelles du nounours.
C'est qui les nounours?
Ben, elle a encore, hein.
Voilà, elle a dit ce qu'elle avait dit tout à l'heure, donc elle a dit non, et il reste à la maison, c'est lui le veilleur. Merci, ouais. Là, elle est vachement plus à l'aise, hein. C'est le premier débat où elle parle, hein, parce que là, normalement, elle ne parle jamais. C'est-à-dire qu'elle est à l'aise avec vous.
Bonsoir. Elle me fait penser à ma mère, Abou Alhamra. Je trouve triste l'immigration, quand même. Il y a sûrement des bons côtés, mais ce que je trouve triste, c'est de déraciner ces gens, parce que ma mère, quand elle est venue aussi, mon père est comme tous les autres, comme tous les immigrés qui sont venus d'Algérie, ils ont laissé leur famille là-bas, ils sont venus jeunes. Ma mère avait 14 ans et demi. Donc elle a tout abandonné, elle est venue ici, bon c'est vrai qu'ils ne parlaient pas la langue, que... bon ils ont été aidés, elle a appris avec les voisines et tout. Mais ça fait beaucoup de peine quand ils vieillissent, ils n'ont pas vécu avec leur famille, nous on n'a pas connu les parents, les tontons, les tatas, les grands-pères, les grands-mères, on n'a pas connu non plus. Et c'est triste, à la fin elle pleurait. Et j'imagine, ma mère à une année en France on nous donnait 10 000 balles pour rentrer chez nous, le gouvernement nous filait 10 000 balles. Et ma mère, elle nous a dit à cette époque-là, il y a beaucoup de gens qui sont partis. Et ma mère nous a dit, je me rappelle, elle me disait, j'ai envie de partir, tu sais. Alors j'ai dit, ben ouais, pars. Elle me dit, oui, mais vous? Ben nous, on ne peut pas. Nous, on ne peut pas partir. On est d'ici, nous, on ne connaît pas là-bas. On ne pourrait pas. Le peu de fois où on est allé en vacances, on ne s'adaptait pas. Hein. C'était pas la même vie, c'était pas pareil. Et qu'est-ce qu'elles se sont sacrifiées, qu'est-ce qu'elles ont, elles ont tout laissé tomber pour venir ici. Et il y a un truc qui m'a choquée, c'est quand elle est assise sur son balcon, il y a un bâtiment en face. Ça donne sur un bâtiment. Quelle tristesse. Enfin, en tout cas, yahtik saha. Yahtik saha. Elle a bien élevé ses enfants. Yahtik saha.
Si je peux pas mettre, c'est vrai qu'il y a un truc qui a été dur pour ma mère, moi je pense. En fait, si elle était née dans une grande ville, si par exemple elle était née soit à Alger ou à Oran, je pense que ça aurait été moins dur aussi. Il y a aussi un truc dont on ne parle pas, c'est l'exode rural aussi. De venir d'un village où il n'y avait pas d'eau et pas d'essai, où ma mère allait chercher l'eau sur ses épaules. C'est pour ça qu'elle fait sa vaisselle avec 3 bassines d'eau, parce qu'elle connaît la valeur de l'eau par rapport à nous, quoi. Et c'est vrai que c'est aussi peut-être ça, d'avoir quitté son village comme quand il y a eu aussi paysans français qui sont venus dans les villes. Donc ça, c'est difficile. Et puis, c'est ce que tu disais aussi, le fait qu'elle ne parle pas la langue. Donc je pense que ça a ajouté. Mais il y a un autre truc aussi. C'est tu vois, ma mère, je ne sais pas si elle aurait pu aller revivre dans son village. Parce que je pense que c'est ça l'exil aussi. C'est que quand tu pars pour de bon, quoi, presque. Parce qu'elle a vécu 60 ans en France, donc elle est aussi française, en fait. Tu es du pays d'où tu vis, en vrai, hein, au coup. Il y a les hommes politiques de droite et en fait aussi du PS, Valls et toute la clique, là, qui te font croire qu'il y a une identité, qu'elle est figée ton identité. Tu vois, moi j'ai vécu en Australie 8 ans, je me sens australien aussi, quoi. Je me sens français, je me sens un peu algérien par mes parents, je me sens de là-bas, quoi. Si je vais vivre à Londres pendant 10 ans, je serai aussi de là-bas, quoi. Donc ça bouge. Et donc, ma mère, même si elle maîtrise moins le français que d'autres, 60 ans en France, ça marque. Et quand elle va dans son bled, là-bas, Natal, ceux qui sont restés, ils ont changé d'une autre manière. Et donc, elle trouve ni sa place là-bas, en fait, et ni sa place ici, comme elle maîtrise moins les codes que nous. C'est une sorte de funambule entre deux mondes, quoi. Elle est pas d'ici, elle est pas de là-bas, donc elle est de nulle part. Et donc, c'est ça qui est le plus dur. Parce que, tu vois, en fait, elle aurait pu retourner là-bas, mais c'est ce que tu disais, les gens qu'elle aime, ils sont ici, ses enfants, ses petits-enfants, ses petits-enfants. Elle a quand même, il y a une lignée de 40 Français grâce à elle et à mon père, quoi. C'est quand même pareil. Donc, c'est une histoire française aussi.
Bonsoir. السلام عليكم نانا مسعودة. السلام عليكم عيدكم مبارك. سويت اني بون فات العيد
نانا. مساء الخير عليكم.
مساء الخير. مرحبا بكم. Je voulais dire que mon fils qui vient de partir, il m'a dit hier qu'il souhaitait amener une branche de figuier pour planter une figuier en Australie. Parce qu'il vit là-bas aussi. Sans savoir qu'on allait venir voir un film qui s'appelait Les Figues à d'avril. Il ne savait pas. Et ça m'a fait vraiment, hein, vraiment là, ça m'a fait bizarre qu'il dise ça. Concernant les anciens, concernant l'unité, le même parcours, la même nostalgie, la même mélancolie, c'est les mêmes. Nous, on est des régions Chaoui, on est aussi, c'est l'exode rural, que ce soit Kabyle, Chaoui ou les régions pauvres d'Algérie, ou du Maroc ou de Tunisie, c'est pareil. C'est la même nostalgie, c'est la même mélancolie. Hein. Je voulais quand même donner une information, c'est que nos mamans, parce qu'on n'a pas de tante, pas d'oncle, on a pas, ce sont les amis de nos parents qui sont nos oncles et nos tantes en France, qui ont été nos... par exemple, quand elles se réunissaient au marché de Martigues, à Jonquière ou Ferrières, à Lille. En fait, elles se mettaient toutes d'accord au départ et elles partaient en étoile. Et chacune allait chercher les tarifs, les prix des produits, tomates, courgettes, tout ça. Après, se re-rencontrer pour dire, voilà, les courgettes, elles coûtent tel prix là-bas, les tomates, tel prix là-bas. Et elles savaient, grâce à l'information, comme les abeilles, quand elles se bougent, se donnent le nombril, elles savaient exactement où étaient les tomates les moins chères, les courgettes les moins chères, etc., etc. Voilà, ça, c'est, moi, ça m'avait étonné. quand j'étais petit, parce que je l'accompagnais pour porter les sacs, les couffins, ça m'étonnait. Elles ont une intelligence, elles sont très intelligentes. Et en même temps, notre mère, comme d'autres, nous a mis chaque année de Martigues, à côté de Port-de-Bouc, Martigues, hein, jusqu'au village en Algérie, pour justement se plonger dans la culture d'origine. Et c'est grâce à ça, s'immerger. C'est grâce à ça qu'on a gardé les traditions d'avant. Moi, j'ai 62 ans, donc on a encore gardé ça. Mais je voulais dire que, comme tu as dit, toi, Nadir, que c'est vrai qu'on a, qu'on a fait une essentialisation dans le négatif de ce qu'on était. On a voulu faire venir des bras, mais en fait, c'était des hommes qui sont venus. On a oublié ça, on a fait oublier ça. Et des femmes, on a fait oublier ça. Voilà, c'est grave. Et aujourd'hui, il y a un ressentiment, et il y a des gens, des jeunes ou des moins jeunes, qui sont en train de revendiquer le droit à, parce que tu as dit, on est français. Oui, on est français, on a une culture. Je ne vois pas pourquoi on revient vers la culture provençale ou la culture locale. Et nous,
ouais, il est vrai que c'est vrai qu'il y a ma mère et mon père qui sont moins en colère que moi, par exemple. C'est vrai. Ça a sauté Et ça, il y a des gens qui n'arrivent pas à le comprendre. C'est vrai que moi, j'ai pas vécu la guerre d'Algérie, j'ai pas vécu la colonisation, quoi. Mais à travers leur silence et leur non-dit, quoi, il y a eu un truc qui n'a pas été fait en moi. Il y a eu un. Je sens qu'il y a une sorte de manque. En fait, je ne sais pas si c'est le cas pour d'autres gamins ici, là. Où je suis plus en colère, moi j'ai une vraie rage intérieure, j'ai presque une peine, quoi, des fois. Et tu vois, j'ai mis du temps à essayer de comprendre pour quelle raison j'étais comme ça, quoi. Parce que souvent tu te demandes, c'est un truc que tu n'as pas vécu. Et en psychologie, ils disent qu'il y a un syndrome post-traumatique, donc ça saute d'une génération. Tu sais que tes parents, ils ont vécu des trucs qui n'étaient pas simples, et comme ils t'en ont jamais parlé, tu t'es construit sur des silences ou sur des bribes d'histoire. Et il n'y a rien de pire que ça. Et c'est pour ça, moi, je trouve que c'est important d'en parler, de débattre. Comme la France, elle est championne du monde pour dire à chaque fois, moi, depuis que je suis petit, j'entends, c'est jamais le moment. D'accord. Ok, c'est jamais le moment, comme vous voulez, hein. C'est jamais le moment. Sauf qu'il y a des générations qui se construisent dans ça, qui se construisent dans le ressentiment, c'est ce que tu disais, dans le ressentiment, dans la haine, dans la rage. Est-ce qu'ils savent? Moi, quand je regardais les yeux de mes parents, je voyais bien qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Je voyais bien qu'il y avait de la souffrance. Quand tes parents sont en souffrance, leurs enfants sont en souffrance. C'est mécanique, tu vois, faut pas non plus... Et donc, au sortir de la guerre, il y a eu des choses qui n'ont pas été dites, il y a eu des choses qui n'ont pas été faites, il y a eu des choses qui ont été mises de côté. Il a fallu attendre 1999 pour que Chirac parle de guerre, avant ces événements. Et tu vois, donc nous, leurs mômes, leurs enfants, donc on a été dans des no man's land, quoi. On ne savait pas aussi. Et tu vois, c'est encore flou, alors que j'ai pourtant écrit plein de choses dessus. J'ai fait des films, quoi. Et donc, si tu veux que tes enfants sortent de ça, il va falloir qu'on s'y mette quand même un peu.
En fait, je voulais intervenir par rapport à votre échange.
Quel échange?
Votre échange.
Ah,
et je me disais aussi que parfois on focalise sur ce sur quoi vous venez d'échanger, alors que c'est quelque chose qui est commun à l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire que la génération avant nous, elle vivait les choses différemment, la transmission et les non-dits ne sont pas un trait de caractère à la génération d'immigrés ou, tu vois, c'est pas la situation de migrants qui crée les conditions de la manière dont on va se... du silence. Et que chacun doit trouver sa place dans sa génération et dans la construction de la société, tout simplement. Et quand on... Quand on est dans cette réflexion-là, soit on se nourrit de frustration, soit on les dépasse et on construit autre chose.
Voilà,
Sauf que c'est plus simple de les dépasser quand on est dans nos pompes, nous, quand tu es dans un quartier populaire, quand tu n'as pas de boulot, quand tout ça. Ça peut nourrir, c'est pour ça. Mais ce que tu dis, c'est vrai, ceux qui ont vécu la, par exemple, Deuxième Guerre mondiale, moi j'ai des potes qui ont des grands-parents qui l'ont vécu et qui aussi me disent la même chose, qui me disent que leurs grands-parents qui sont de Bretagne, qui sont des Français dits de souche, comme on dit, et qui ont les mêmes choses. Leurs grands-parents n'ont pas parlé. C'est vrai que c'est des générations qui n'ont pas parlé, mais c'est aussi parce qu'on ne leur a jamais donné la parole. Et tu vois, en fait, ma mère, elle n'a jamais pensé qu'elle avait le droit de parler. En France, à qui on donne la parole en France? Tu allumes la télé, tu vas bien. On ne donne pas la parole aux pauvres. Aux femmes, on leur donne moins la parole qu'aux hommes aussi. Aux personnes âgées, on leur donne pas la parole. Passé 50 ans en France, t'es quand même mis de côté. T'es quand même... C'est le film. Donc, ma mère cumule, quoi. Elle est femme, pauvre, immigrée, elle maîtrise pas la langue, donc elle est mis de côté. Hein. Qui aussi dirige la France. Hein. C'est des gens qui ont fait l'ENA, quoi. C'est aussi une certaine élite. Et c'est pour ça que je parle de classe sociale aussi, parce que c'est un terrain... Même Jean-Luc Mélenchon, je sais qu'il y a des femmes ici, Jean-Luc Mélenchon, mais même lui parle d'État-nation, quoi. Tu vas dans ces manifs, il y a des drapeaux bleu-blanc-rouge. Putain, si c'est ça, être de gauche, quoi. On parle plus de classe sociale. On fait comme si ça n'existe plus. On fait comme si que être fils de médecin, avoir grandi à Neuilly-sur-Seine avec des cours particuliers en maths et en anglais, c'est la même chose que quand tu es né dans un quartier populaire ou quand tu es né dans un petit village ou dans une petite ville de province, ce qui est quand même pas la même chose. Et vraiment, les classes sociales, on n'en parle plus. Et ce que j'aime le plus, moi, dans ce film, c'est que ma mère, qui ne sait pas lire et écrire, science sans conscience n'est que ruine de l'âme, et ma mère, elle remet la question sociale au cœur du débat. Elle dit, on n'est pas des bourgeois, on est des paysans. Tu vois, en faisant ce film, j'ai compris, j'étais un fils de paysan. Je l'avais oublié. À force de vivre dans une ville, tu vois, j'ai oublié. Donc, je suis pas qu'un fils de prolo, je suis aussi un fils de paysan. Le truc de la terre. Et au début du XXe siècle, la plupart des Français étaient des paysans, quand même. Ça aussi, on l'a très vite oublié. Ici, vous êtes tous des petits-enfants de paysans, en vrai. C'est vrai. Voilà.
Moi, je... D'abord, merci pour ce film. Je trouve que les choses, faudrait pas les mettre de façon manichéiste tout le temps, parce que moi, je suis d'une famille très mélangée. Nous, les frères et sœurs en Algérie, on a été éduqués par une dame qui ne savait pas lire et écrire, qui est extraordinaire, qui nous a appris beaucoup de choses avec son cœur. Mais c'est pas de la démagogie, hein, ce que je dis. Elle nous a vraiment, elle avait cette finesse comme la maman, comme Miss Aouda. Elle nous a appris, elle s'appelait Moumani, au début elle était là pour nous aider à faire le ménage à la maison, on arrivait après l'indépendance, et après sa famille ne la voulait plus parce qu'elle était âgée, elle est restée à la maison, elle avait sa chambre, et c'était Moumani, attention, on ne discutait pas ses ordres, ni rien du tout, et tout ça. Donc elle m'a appris à être tolérante, à connaître l'islam, à connaître plein de choses, avec beaucoup de respect, une femme extraordinaire. Voilà d'où je pars. Donc ensuite, ce qu'elle m'a appris aussi, c'était Yéverkbeili, Barkbeili, il y avait les autres et tout. Et il y avait aussi un problème de langue. Mon beau-père, il savait pas, il a appris l'arabe pour avoir le droit d'exercer comme dentiste sans être titulaire du cabinet dans les années 70. Nous, on est partis après la famille dans les années 70, mais il y avait eu une manifestation quand même où les gens voulaient parler, avoir le droit d'apprendre le kabyle, parce qu'au début, à la radio, on avait le droit. Il y avait une radio, il y avait tout ça. Après, de moins en moins. Et après, il y avait même eu un mort dans la manifestation quand les étudiants ont demandé ça. Et donc, moi, j'étais focalisée un peu là-dessus. Les copains qui disaient, nous, on est kabyle, on est un peu au-dessus. Et ma famille, enfin, en faisant partie aussi, je disais, ah ouais, peut-être, tout ça. Après, à l'école, j'apprenais de l'arabe, bessif, de force. Et donc, j'apprenais quand même aussi. Mais tous ces mélanges-là, je ne les ai pas oubliés. Parce que nous aussi, on était exilés de l'autre côté, entre guillemets. Pas un rond non plus, etc. Mais on n'était pas malheureux, pardon. Parce qu'on avait des copains, des amis. Et le pire exil, je voudrais finir là-dessus, c'est de ne pas savoir lire et écrire. Parce que mon amie qui est avec moi, c'était sous-titré en français, c'était en kabyle, et elle parle que arabe. Donc on retrouve ça, toute cette histoire dans laquelle on est tous imbriqués les uns les autres,
avec de l'amour, avec de la haine, avec de la compréhension. Ça commence quand même avec le musée de l'immigration. Ça commence quand même... il faut que les enfants... Moi, je m'occupe d'enfants en difficulté. Tous, gitans, manouches, algériens, n'importe. Première chose qu'ils demandent, qui je suis ? Quelle langue je parle ? Et ils disent, ah, mais moi, je parle gitan. Ils savent pas trois mots d'espagnol. Ah, mais moi, je parle arabe. Et paf, ils me disent un truc en kabyle. Donc, c'est toujours cette recherche d'identité. Faisons-la ensemble. C'est pas de la faute des uns, c'est pas de la faute des autres. On se fait tous bouffer par le fric, c'est vrai. Mais les gens, les maîtres ne sont ça que si on les accepte comme maîtres. C'est eux qui ont besoin de nous, c'est pas nous qui avons besoin d'eux. Voilà, etc. Et en tout cas, merci pour le film.
Bon, si je peux me permettre, c'est vrai qu'il y a des langues qui sont un peu plus acceptées en France aussi, quoi. Quand on vient de Suède, quand on vient des États-Unis, on peut parler dans le métro anglais, ça dérange personne. On peut parler suédois, au contraire, oh, c'est super exotique. Quand tu te mets à parler arabe dans le métro ou une autre langue, la kabylie berbère, tu vois la tronche des gens. C'est pour ça que moi, oui, mais moi c'est pour ça que je me permets d'être quand même un peu manichéen, parce que j'aime bien qu'on nomme les choses aussi, quoi, parce que. Pour moi, les discours un peu de paix, de bisounours et tout ça, ça ne fait pas vraiment avancer le débat. Même, je trouve que, au contraire, ça nous maintient dans un statu quo, quoi. De tout temps, vous allez me dire, les riches, ils ont demandé aux pauvres de ne pas revendiquer, de ne pas être en colère. C'est ce que les hommes disaient aux femmes aussi. Soyez pas en colère, les femmes, arrêtez d'être hystériques. Si les femmes n'avaient pas été vénères, le droit de vote, je pense qu'elles auraient bien pu se le rentrer. Le droit à l'avortement, alors pareillement. C'est pour ça que sans colère et sans rage, je ne pense pas que les choses, elles, vraiment, avancent à fond la caisse. Moi, c'est pour ça que c'est pour ça que je me donne le droit d'être en colère. Je me donne le temps. Et bon, moi, c'est des trucs que je dis à chaque fois souvent. Je suis là pour plaire à personne. Je suis là pour plaire à ma mère. C'est bien. Le reste, vraiment, soyez en colère, quoi. Ne vous laissez pas berner par ce discours. Faut pas revendiquer, faut accepter votre sort, les pauvres, mais c'est de votre faute si ça va pas. C'est pas grave, hein, les pauvres, il faut rien dire, hein. Faut juste tenir des discours de paix où on est tous ensemble. Et c'est comme ce qui se passe en Palestine, avec les discours de paix. On a bien vu ce qui se passe depuis 60 ans, quoi. Les discours de paix, discours de paix, discours de paix, discours de paix. On va droit dans le mur.
Oui, moi, c'est tout à fait... c'est le côté humaniste qui m'a beaucoup touché. Et le côté don de soi, quoi. Cette dame a donné toute sa vie à ses enfants, à son mari, et ça m'a rappelé un peu un film, justement pour rebondir sur le stack, un très joli film qui s'appelait La vieille dame indigne, je ne sais pas si vous l'avez vu, de René Alliot. Mais c'est tout à fait le contraire, la dame, c'est pas la même démarche. J'appellerais ça la vieille dame digne, très digne. Et à travers ce film, il y avait une très jolie chanson de Jean Ferrat. Et si vous permettez, je vais en dire deux ou trois paroles. Faut-il pleurer ? Faut-il en rire ? Faites-elle envie ou bien pitié ? Je n'ai pas le cœur à le dire. On ne voit pas le temps passer. Voilà, c'est le côté intéressant.
J'ai juste une petite question un peu personnelle, indiscrète, je dirais qu'à la limite, c'est plus votre réponse qui sera indiscrète. Lorsque j'étais petit, moi, mes parents, la règle d'or, c'était ne pas se faire remarquer. On arrivait dans notre zone industrielle, pas la vue, on était les premiers immeubles, etc. Et moi, mon père, c'était ne faites pas de bêtises, pas de conneries, je ne veux pas entendre de parler de qui que ce soit. Lorsqu'on croisait un voisin, c'était il fallait dire bonjour. Si je le croisais 10 fois, il fallait que je lui dise 10 fois bonjour. C'était comme ça et pas autrement. Et je veux juste savoir aujourd'hui, bon, je pense qu'on doit à peu près avoir le même âge, si vous le venez...
Je suis un peu plus jeune quand même.
Je pense que l'éducation doit être la même. Et simplement savoir un petit peu comment vous avez vécu à cette époque-là. Nous, il fallait rentrer de l'école et rentrer à la maison. Et moi, pour vous dire, pour sortir dehors, à 18 ans, il fallait que je demande l'autorisation à mon père. C'était comme ça.
Alors moi, j'ai eu la chance, c'est que j'étais le petit dernier. Donc moi, ils ont été vachement plus souples avec moi.
J'ai même à la maison.
Ils ont été vachement plus flexibles avec moi. Mais c'est vrai que sinon, tous ces trucs, pas faire de bruit, rien dire, puisque... Comme ils étaient persuadés qu'ils n'étaient pas chez eux, en France. Et tu vois, c'est ça, c'est qu'on a vécu toujours dans l'excuse. Voilà, de t'es pas chez toi, t'as pas le droit de revendiquer, t'as pas le droit de parler. Et moi, il y a un moment, ça m'a tellement bouffé que je me suis dit, waouh, j'ai explosé, quoi. Toute ma vie, c'est ce que j'ai entendu. Sois discret, alors que je suis chez moi en France. Voilà. Et toute ma vie, c'est ce que j'ai entendu. Et c'est pour ça que je suis vénère. Parce que j'en ai ras le cul, mais tu... Elle ne peut pas se savoir. Et je pensais qu'avec l'âge, après je suis parti vivre en Australie 8 ans, je suis revenu et je me suis dit, putain, ça allait être plus cool. Et alors maintenant, c'est à peu près la même chose. Donc... Mais par contre, moi, j'ai pu sortir très 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 jeune. Hein. J'ai pu sortir dès l'âge de... Il y a eu ma mère qui m'a dit, en plus comme moi j'étais le petit garçon, le petit dernier, j'étais un peu le chouchou aussi. Moi, elle me laissait faire un peu plus de juste de d'autres, mais sinon mes soeurs et mon grand frère, c'était un peu plus compliqué pour eux quand même. Et au moins non, moi j'ai été libre. J'ai même été trop libre, enfin trop libre. On n'est jamais trop libre. Moi c'était que non, le seul point commun c'est ça, c'est qu'il fallait pas se faire remarquer. Et tu vois, t'es chez toi et on te demande de pas remarquer quoi. C'est un truc de psychopathe quoi. C'est un truc schizophrénique quoi. T'es waouh et c'est pour ça que quand on est dans le métro, on a envie de se faire remarquer quoi. Parce que toute notre vie, c'est ce qu'on a entendu. Soyez discret.
Je dis juste qu'elle en appartient, mais c'est que chez nous. Les filles, elles n'avaient pas le droit de sortir. Les garçons, un tout petit peu plus.
Mais il y avait mon grand frère qui avait moins le droit de sortir que moi. Moi, j'étais le petit ami. Et là aussi, je pense que c'est lié au fait que mes parents, en fait, ils étaient âgés, donc ils en avaient eu 8 avant. Avec moi, ils se sont dit, 8, c'est bon, allez, vas-y, le dernier, il peut faire un peu ce qu'il veut, je crois. C'est ça aussi. C'est vrai que quand t'en as 8, après le dernier, tu te dis...
Moi, je voudrais partager votre avis sur l'importance d'exprimer sa colère. Enfin, je vous rejoins là-dessus. Ceci dit, on n'est pas obligé d'exprimer sa colère avec agressivité, mais c'est important de dire les choses. Et vous connaissiez pas Port de Bourg, et c'est dommage parce que Port de Bourg, c'est une ville qui s'est construite avec... comment ?
Excusez-moi, ça va.
Voilà, exclusivement sur beaucoup d'immigrés à Port de Bourg. Et il y a vraiment une identité pour de bouquins où des personnes avec des histoires très différentes, des cultures très différentes. Du coup, ça a créé une identité où les gens sont ensemble et revendiquent cette appartenance au groupe. Et voilà, donc j'espère que votre passage à Port-de-Bourg va laisser une trace. Et d'ailleurs, tout à l'heure, vous disiez, ma mère, c'est la première fois qu'elle prend la parole, mais peut-être parce qu'il y a une atmosphère particulière aussi. En tout cas, j'espère que c'est pour ça. Et vous disiez qu'il y a beaucoup de films qui se sont faits pour parler de l'immigration. Et en particulier, je crois que l'histoire entre la France et l'Algérie est quand même très particulière. Et il y avait un documentaire qui avait été diffusé ici au Méliès qui s'appelle La Traversée. Et où la personne qui a fait ce documentaire témoignait, elle, de son histoire et a filmé les personnes sur le bateau, donc traversé entre Alger et Marseille. Et elle disait un peu ce que vous disiez, c'est que beaucoup de personnes ne savent plus s'ils sont français, algériens, et que finalement leur terre d'appartenance, c'était la Méditerranée. Fait. Cet entre-deux, voilà. Et je trouve qu'au cinéma, il y a des belles choses qui se font aussi. Il n'y a pas que des clichés sur des personnes d'origine maghrébine qui seraient délinquants. Puis après, c'est à nous aussi à aller vers ce qui peut... Voilà, par exemple, comme une soirée comme ce soir, je pense que les personnes qui sont ici ne sont pas là par hasard. Moi, personnellement, j'ai pas d'histoire directe, familiale, en lien avec l'Algérie, mais c'est une question qui m'intéresse beaucoup parce que je suis intéressée par l'humain, qu'il soit d'origine algérienne ou autre. Donc voilà, juste ce que je voulais dire. Merci.
Après, quand j'ai dit que les films qui étaient les films les plus visibles, je parlais,
oui,
que oui, qu'il y a,
films commerciaux.
Que vous ne verrez jamais un film comme ça sur, en prime time sur TF1 ou sur France 2, c'est ce que je disais. Les films qui sont les plus visibles et les films à gros budget, je ne sais pas si vous pouvez m'en citer un qui ont pour décor les quartiers populaires et qui ne sont pas dans une caricature totale. Moi, perso, je n'arrive pas à en citer un. Donc, oui. Après, oui, il y a des petits films qui sont faits, mais je veux dire, c'est comme flippant. Et ça fait 40 ans que c'est comme ça. Et donc, d'où notre colère aussi, peut-être, quoi. C'est que de se voir caricaturer tous les jours. Enfin, quand il y a des, par exemple, journalistes qui viennent dans les quartiers populaires, ils ne sont pas les bienvenus. Sauf que moi, je travaille en tant que journaliste. Sauf que mes confrères ne se remettent jamais en question. Et ça, je pense que c'est aussi global. C'est aussi la même chose. Par exemple, je sais qu'il y avait un article dans Le Monde il y a 2 semaines. C'était il y a 50% des actrices en France, elles ont plus de 50 ans. Et pourtant, à l'écran, elles ne représentent que 6%. Voilà, je ne suis pas parano, mais on choisit
ça,
de montrer quand même que genre de personnes. Et quand les Noirs sont à l'écran, c'est à peu près la même chose. Quand les Arabes ils sont à l'écran, c'est à peu près la même chose. Quand les femmes elles sont à l'écran, c'est à peu près la même chose. C'est pour parler de leur mec. Il y a très peu de rôles de femmes, en vrai. Et ça, c'est pas moi qui le dis, ça, c'est des chiffres. Comme moi, je bosse en tant que journaliste, j'aime bien aussi être toujours factuel et de pas être dans le mythe ou dans le fantasme.
Bonsoir, moi je voudrais simplement d'abord saluer Madame Dendoun. Donc je voulais vous remercier parce que vous m'avez beaucoup fait ressurgir du moins toute ma vie. Parce que ma maman elle était la même que vous, sauf qu'elle était de Tlemcen. Je ne sais pas si vous connaissez Tlemcen, c'est l'ouest algérien. Voilà, c'est à la frontière du Maroc, c'est la capitale berbère antique. C'est la capitale berbère antique, Zmen. Hein? Voilà. Donc, mais moi, par contre, elle nous a appris à se faire respecter. Avec notre éducation, on avait notre éducation comme arme. Donc, on mettait toujours notre éducation, celle qu'elle nous donnait. On la mettait en valeur avec celle des autres. On leur disait, est-ce que notre éducation est en dessous de la vôtre? Comme elle était égale ou même des fois supérieure à la leur, je n'ai jamais eu de problème avec ça. J'ai toujours revendiqué mes droits. Depuis le CP, il n'y a pas de souci. Hein. Aujourd'hui, je suis grand-père, ne vous inquiétez pas. Donc, et j'apprends à mes enfants, j'ai appris à mes enfants. Donc, et j'apprends aujourd'hui à mes petits-enfants la même chose que ma maman m'a enseigné. Sauf qu'elle, elle était toute seule pour nous élever.
Voilà. Voilà. Voilà,
et d'ailleurs,
quelques
marins.
Merci beaucoup.
Voilà,
ça. En fait, elle a dit que quand tu fais du bien, tu récoltes du bien. Non, mais c'est donc pour les autres. Non, c'est pas pour les.
Bonsoir. Donc, en effet, ce qui ne transparaît pas dans le film, c'est la question du racisme, qui n'est certainement pas vécu de la même façon d'une génération à l'autre. Je pense que la soirée Franz Fanon, il faudrait peut-être la refaire, en fait. Hein, parce que j'ai entendu plein de trucs et je me suis dit, tiens, il faudrait le re-regarder. Juste une question, à un moment dans le film, vous dites, on n'a pas été à la hauteur de l'Algérie, et l'Algérie n'a pas été à notre hauteur, et je voudrais savoir ce que ça veut dire, en fait.
Alors, c'est là, après, je vais vous donner le, mais c'est vrai que c'est une question qu'on nous pose à peu près à chaque fois. Moi, je crois savoir, mais c'est vrai que ma mère, si elle veut répondre.
Bah oui, on veut vivre de l'Algérie,
mais on n'arrive pas. On n'arrive pas. C'est pas pareil, les lois, c'est pas pareil. Merci. Dommage, dommage.
Alors, en fait, elle a dit qu'il manquait plein de choses là-bas pour pouvoir vivre là-bas. Voilà. Elle a dit que c'était dommage.
Je m'excuse juste un peu, je voulais rajouter juste un petit mot par rapport à ce petit film. Mais moi, ce petit film, je l'identifie exactement pareil que la trilogie de Marcel Pagnol et tout le reste. Réveil, la femme du boulanger. Maïs, ça veut tout dire. Mais avec ce petit film de 58 minutes, tu retraces tout là. Et bravo pour le message.
Merci. Alors, sur la page Facebook du film, je mettrai quand même que tu es marseillais quand même. Parce que, et bien quand même. Je rigole. Alors, c'est un. Non, mais c'est vrai que c'est un humour très parisien. Donc si en fait je vous vanne sur Port de Coupe, ça reste très amical. Parce que c'est vrai que parfois, moi je en fait, trouve ça, je ne sais pas si c'est l'époque, hein, mais nous quand on était petits, on était 3e, 4e degré. Là maintenant, mais il est vrai qu'en fait, faut dire LOL, quoi. Moi c'est vraiment pour rire. Hein. Moi, je n'ai rien contre les gens de Port-de-Bouc. Je suis super content d'être venu. C'est vraiment magnifique. C'est une belle soirée. Hein. Et je suis même pas en colère. C'est juste de la manière dont je parle. Et tu sais que toute ma vie, j'ai entendu les gens me dire « Calme-toi. Oh, » j'ai horreur de ça. J'ai horreur de ça. Quand les femmes sont vénères, on les traite d'hystériques. Quand c'est les habitants des quartiers populaires, on dit que c'est des sauvages. Arrête de me calmer. Par contre, quand c'est des bourgeois blancs bien sapés qui passent à la télé, donc on va dire quoi d'eux ? On va dire « Oh, les mecs, ils ont du charisme. » Le droit à la colère pour tout le monde. Et tu vois ? Et je te dis, moi, plus on me dit de me calmer, plus j'ai envie d'exploser. Et ça, et toute ma vie, on m'a dit « Mais calme-toi, d'ailleurs que je suis calme, c'est juste que j'ai une manière de parler. » Nous, quand on était petits, on était dans notre hall, et on parlait avec les mains, on parlait, mais je suis hyper calme. Hein. Si tu pouvais mettre ta main sur mon cœur, tu en fait verrais qu'il bat calmement. C'est juste ma manière de parler. Je suis super calme, je suis content d'être à Port-de-Bouc, je fais des blagues pour que ça soit cool. J'ai rien contre les Port-de-Boucains, même si perso je ne viendrai pas du passé. On rigole.
Moi je voulais vous remercier d'avoir mis à l'honneur cette esthétique qu'on retrouve chez nous dans les bâtiments d'HLM. Chez nous, les prolos, c'est cadre de photos hyper kitsch, flouté. Je pensais pas pouvoir le voir à l'écran, c'est génial. Merci. Et cette transmission, enfin, la langue kabyle, encore plus que la langue arabe, je pense, se perd énormément. Moi, mes parents, ils n'ont pas voulu me l'apprendre. Ma mère ne parle plus le kabyle, d'ailleurs, elle a fini par l'oublier. Elle a gagné des notions en anglais, mais... Et ils ont pour ce truc-là, en fait, de honte, de « tu vas pas parler en arabe dans la rue, au centre commercial, etc. » Du coup, ils sont mis en mode, je pense, un peu intégration, inconsciemment, hein, sans le revendiquer, en fait. Mais... Et du coup, mes sœurs et moi, on ne sait pas parler kabyle ni arabe. J'ai vécu 6 mois en Algérie dernièrement pour apprendre, mais effectivement, c'est très difficile. Ce fut un échec. Tout ça, la MJC. Et aussi, merci parce que même si tu es encore jeune, tu commences à être un ancien dans tout cette. avec cette nébuleuse un peu, on voyait dans les remerciements Salah Mokran, donc de Tactique Collectif. Tarek Aoutari, tout ça, qui replace un peu le débat sur la classe, sur la lutte de classe, parce qu'on assiste ces dernières années à un débat qui se centre, c'est ça, essentiellement sur la race, ce qui a pour conséquence de nous diviser, alors que moi je me permets, par exemple, c'est une fille paysanne, blanche, mais fille paysanne, et du coup on a grave de points de commun par rapport moi, à ma grand-mère en Kabylie ou mes parents dans leur HLM.
Et du coup, justement, recentrer ce débat sur la lutte des classes, ça permet de ne plus se diviser entre générations d'immigrés, entre ceux qui se revendiquent. Enfin, moi, j'ai tendance à me rendre plus algérienne que mes parents, par exemple. Donc voilà, se diviser entre générations et diviser par tout simplement la couleur de peau, quoi. Donc ça, c'est chouette, votre travail, de par le film et à côté aussi, quoi.
Merci. Alors, on va prendre 2-3, monsieur et Sandrine.
Juste une petite minute, c'est vrai que moi, ma mère, elle m'a toujours parlé en français comme toi pour que je sois un français comme les autres. Et moi, j'aurais aimé qu'elle me parle en cabine, mais c'est ce que tu disais. Et le tout sur la littérature, c'est vrai que comme tout le monde en parle, hein, comme je pense que c'est l'élite qui a fait en sorte de nous diviser entre pauvres, entre juifs, blancs, noirs, arabes, et on est tombé dans le panneau. Même moi, j'ai tombé un peu dans le panneau. Et c'est marrant, c'est en faisant ce film, ça m'a réveillé. Quoi. Je me suis dit, attends. Le fils de l'ambassadeur du Maroc, t'en as rien à foutre. Le fils du général algérien, t'en as rien à foutre. T'as aucun point commun avec ces mecs. Moi, mes frères, c'est les mecs avec qui je suis né dans mon quartier populaire. Avec Alain, Rachid, tout ça, c'était des fils de prolos, ils avaient même des parents. Même moi, je me rappelle, j'avais un pote à moi qui s'appelait Alain, il était blanc de chez blanc, comme on dit. Et lui, son père, il ne savait pas lire et écrire aussi. Donc j'avais vachement de points communs avec lui, puisque moi, j'avais des parents qui s'appelaient Alain. Donc c'est bien, comme tu dis, de remettre ça au cœur.
Alors, moi, je voulais vous remercier pour ce film. On a peu parlé de technique, mais quel culot vous avez quand même de cadrer votre maman et toute seule en train de parler, on entend votre voix. Je trouve que c'est intéressant. Et madame, quel regard vous avez. Vous savez, je vais vous dire à qui vous m'avez fait penser. Alors, mon collègue d'à côté va rire. Vous m'avez fait penser à une chanteuse qui s'appelait Colette Mani et pour laquelle un de mes amis disait « Rien que ses yeux, on pend ». À propos de Colette Mani, par exemple, elle a écrit notamment 3 textes qui étaient « L'exil », elle a écrit « Je rase les murs » et « J'ai pas les papiers ». Et c'était des textes qu'elle avait écrits après enquête auprès des gens, notamment auprès des ouvriers de la Peñarroya à l'époque, qui étaient en grève, donc ça remonte loin, en 73, quoi, il y a 45 ans, je veux dire. Et je voulais vous dire simplement le texte d'une chanson qui était un hymne américain qu'avait écrit un gars qui s'appelait Woody Guthrie, qui était un chanteur des usines, des rues, des grèves. Et en français, ça a donné ce que nous, on l'a écrit. Ce pays est le vôtre comme il est le mien, qu'on soit français ou algérien, espagnol, portugais ou italien, ce pays est fait pour toi et moi. Gens de partout venus d'ailleurs, vous êtes ici, vous êtes d'ici.
Ma mère, il y a des dizaines d'années, elle est partie maintenant à la Rahma. Mais quand elle était vivante, elle disait, il viendra un jour, ils ont un sixième sens, les gens de la terre. Elle disait, il viendra un jour, il nous donnera un coup de pied. Il nous donnera un coup de pied, ils nous feront partir. Elle le sentait. Bon, là, on n'est pas parti, mais on n'existe pas. Ils ne veulent pas qu'on existe. Il y a des plafonds de verre, vraiment. Surtout aujourd'hui, on a fait jouer l'histoire du terrorisme et tout ça, c'est aujourd'hui. Et je me rappelle encore, elle disait, il viendra un jour où on a un coup de pied. Et on dirait qu'elle avait un sixième sens. Et moi, ça m'avait effrayé parce que je me sens de ce pays, je me sens toujours. Mais je me disais, pourquoi maman a dit ça? Ben parce qu'on ne lui faisait pas sentir qu'elle est de là, mais pas que ma mère, toutes. On les faisait sentir que vous n'êtes pas de là. On ne prend pas en considération ce qu'elles sont, la culture qu'elles véhiculent, ni quoi que ce soit. Ça se passe aujourd'hui en France. Et ça, je vis ici, ce n'est pas mes amis de Martigues ou de Port-de-Bouc qui pensent ça. C'est les gens qui dirigent, c'est ceux dont tu parlais, qui font la division entre les gens d'en bas, et eux, ils regardent en haut en rigolant, bien sûr. Et merci pour Colette Mani. Parce que moi, je suis plus immigré algérien, mais je connais Colette Mani, Mama Béa, etc. Et Arlo Guthrie, je ne sais pas si tu n'as pas chanté à Woodstock. Je ne sais pas. Ouais.
Bon, merci de ta soirée.
Merci à surtout. J'ai une dernière question à la distributrice de films.
Tu n'as pas fini ? Bien sûr. Si, je me dis tout à l'heure.
Non, normalement, je ne pose pas de questions, j'ai pas le droit en fait.
Non, je rigole. On a tous les droits.
Non, non. Non, en fait, je voulais dire que je pense que tu nourris beaucoup les gens avec ton film. Et je voulais savoir ce qui te nourrissait, toi, aujourd'hui.
Ah, question d'enfoiré.
Question de merde, hein. Bah ouais, c'est une question de merde sur toute la tournée, je la pose.
Moi, c'est vrai. Alors, c'est vrai que là, c'est mon combien ? C'est le peut-être le 48e débat ou 50e débat, là, je sais pas. 46, 47. Là. Le film il est sorti le 4 avril, là, donc. Je crois qu'à la fin juin, ça fera 70, ouais, ou peut-être 60. Je sais pas. Bon, bref, il y en a un peu beaucoup. Et c'est vrai qu'on apprend. Il y a des débats où des fois ça se passe bien, des fois ça se passe pas bien. Mais j'apprends plein de choses. Il y a même des choses que les gens voient à travers ce film que j'avais pas vu, moi. Moi, j'ai vraiment filmé à l'instinct, tu vois. Moi, je suis pas réalisateur de film. Hein. Je vais pas me la raconter, je vais pas vous dire. Voilà, je vais pas parler comme les autres. J'ai fait ce film parce que c'est dit, bon. Tu vois, je suis pas comme ça. J'ai vraiment filmé à l'instinct, et je pense que j'ai filmé avec amour. C'est peut-être pour ça que ça donne ça aussi. Et puis, je pense que ma mère, elle m'a parlé aussi parce que c'était son fils. Hein. Enfin, voilà, vous avez vu qu'elle dit des bribes. Et là encore, comme tu disais, c'est la première fois qu'elle parle. T'as vu, elle parle jamais. Normalement, elle vient. Elle fait sa star, comme ça, elle fait ça. Et ensuite, elle s'assied, c'est fini. Voilà. Donc. J'apprends pas de choses. Il y a des fois, je suis un peu meilleur, des fois, je suis un peu moins bon. Il y a des fois, je doute, des fois, je raconte des conneries. Mais par contre, je me suis jamais autant exprimé. Et qu'est-ce que ça fait du bien? Et même si on n'est pas d'accord, on s'en bat la race. C'est pas grave. C'est pas grave. Il y a que comme ça que ça avance. Voilà. Et je trouve que pendant trop longtemps, on n'a pas osé dire les choses. On a été tout le temps, mais parce qu'on était dans l'excuse permanente ou parce qu'on voulait pas. Brusquer les gens. Voilà. Et la parole, elle se prend. La parole, elle se prend. C'est pas un truc qu'on nous donne, hein. Sinon ça se saurait. Donc prenez la parole.
Un immense merci, mais vraiment merci.
Voilà, on arrive à la fin du débat. Du film Des filles en avril de Nadir Détouane. Méliès, c'était en tête de cinéma. Émission de radio sur Radio Galère. Merci aux Méliès, merci à Manu, merci à tout le monde. Au revoir.
يبنى سلجير والسيمان وهمن ياكم الدن ذي الزينيس يا سيدي عبد الرحمن يا مول البرهان يقوان صر غريب سخاميس اسميني قبل ضروحة غزوخ غصنا فاس الوالدين مي غاسن دو غالغ ما طر غاسق غسن غسين خرخغ انفرق فروحة ثور اشترنا عشر سنين موحى موح خرخغ انفرق فروحة ثور اشترنا عشر سنين موحى موح
موحى موح كلمات الدوبة روحة موحى موح الكلمات الدوبة روحة موحى موح
بيدي ربي يا الحنينة يا معزوز كمزين طرح ذاك ورفيد كمتر ودخلو درقوز الفاري تحكم في اللي وقيلة تسعى لحروز موحى موح الفاري تحكم في اللي وقيلة تسعى لحروز موحى موح
موح موح كما سجوا من روحى موح
عليا ميني هدشن صراج وغازل دي ثبور دي الغربة والفقدين ما دولي ويبغى ثامور ما رفعوا لا شدري من ما قيم الغودة غلمو ثاموح موح ما رفعوا لا شدري من ما قيم الغودة غلمو ثاموح موح
موح موح كما تسدو من روح موح
غاضوري نرزيسي والدريا نتغرى كل يوم تراجوني مذنك وبيغض روحا الغربة تزي السي عرقي وبريد تساغى غاموح موح الغربة تزي السي عرقي وبريد تساغى غاموح